Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce nouvel opus du Libre Journal de l'Occident, que j'ai l'honneur de diriger sur Radio Courtoisie, formidable radio que nous aimons à suivre. Alors ce soir, vous savez qu'on vous a tout fait dans le Libre Journal de l'Occident, on essaye encore de vous trouver une ligne éditoriale. On vous a fait de la culture, l'humour est-il de gauche? On a parlé humour, on a parlé photographie, le pouvoir de l'image, on a parlé géopolitique, on a parlé des élections, on a parlé de l'affaire Lola un an après avec le député de Crépol. Et on va essayer encore à nouveau un nouveau format, puisque vous savez qu'en tant que directeur des opérations d'SOS Chrétien d'Orient, j'ai la chance et le privilège de pouvoir voyager dans tous ces pays qui regorgent de chrétientés orientales, de chrétientés primitives, qui nous ont tout donné et qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me trouve en Irak dans le cadre de mes fonctions. Et écoutez, je me suis dit que pour une fois, je n'allais pas garder ça pour moi-même et que j'allais partager avec vous, chers auditeurs, la richesse du pays dans lequel je me trouve. Et malheureusement aussi, en fait, c'est le moment de parler des troubles particuliers que connaît la région. Et c'est un instant particulièrement important puisque, évidemment, vous savez qu'on se trouve au cœur des négociations entre les États-Unis et l'Iran, on en reviendra. On se trouve également au cœur des funérailles de l'ayatollah Khamenei, qui a été tué au début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Funérailles qui revêtent un intérêt tout particulier en Irak, puisque vous savez que l'Irak est un pays à grande majorité chiite, qui est voisin du grand pays chiite qui est l'Iran. Et donc ici, on ressent de première main l'impact de ces funérailles. Et puis beaucoup d'autres actualités que nous avons vécues ces derniers mois, avec l'élection d'un nouveau Premier ministre en Irak, avec l'élection d'un nouveau patriarche pour l'Église chaldéenne, dont le siège patriarcal est en Irak. Bref, une actualité extrêmement chargée. Et nous parlerons évidemment, je ne vais pas manquer de me faire de la publicité, de SOS Chrétien d'Orient, de notre action sur place et de la façon dont nos équipes aident les chrétiens d'Irak au quotidien. Alors, pour m'accompagner ce soir, je suis avec Yvan de Mercey, qui est notre chef de mission en Jordanie. Bonsoir Yvan, est-ce que vous nous entendez ?
Bonsoir, oui, je vous entends très bien.
Parfait, très bien. Je suis également avec Antonin Dubois, qui est notre chef de mission en Irak. Bonsoir Antonin.
Bonsoir François-Xavier.
Et je suis également avec Alix de Franqueville, qui est notre responsable des volontaires. Bonsoir Alix.
Bonsoir François-Xavier.
Alors, déjà revenons, il y a quelques mois, nous avons fait une émission avec notamment Antonin ici présent, hein, sur la situation, sur comment est-ce que clairement cette guerre affectait les populations, puisque nous on en parle beaucoup depuis la France. On parle de toutes les agitations qu'il y a autour de cette guerre, hein, une guerre qui est assez, assez compliquée à cerner, puisque la personnalité de Donald Trump elle-même est assez compliquée à cerner du jour au lendemain. Mais en fait, une chose sur laquelle on se penche un peu moins, c'est ce que vivent les populations au quotidien. Donc écoutez, je commencerai par donner la parole à Yvan, on va rester sur l'ordre chronologique de présentation des intervenants. Yvan de Mercey, vous êtes en Jordanie, et il me semble que c'est une situation qui est très particulière, puisque le gouvernement, le roi de Jordanie a un positionnement. La rue n'est pas totalement alignée sur la neutralité prônée par le gouvernement. En fait, clairement, depuis le début de cette guerre, depuis fin février, comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous observez et quelle est la réalité du terrain en Jordanie?
Bonsoir Xavier, merci de m'inviter dans cette émission. Alors, pour ce qui est de la Jordanie, c'est effectivement un pays assez particulier qui est pris entre deux feux, en réalité. Donc, la Jordanie, c'est un pays de 11 millions d'habitants environ, qui est indépendant depuis 1946, indépendant de l'Angleterre, et puis qui a été indépendant aussi des Ottomans dès 1920 grâce à Lawrence d'Arabie. C'est un pays tout récent et qui a été pris dans les guerres israélo-arabes au XXe siècle et qui a entamé un processus de paix en 1994. Il y a eu un accord entre la Jordanie et Israël, avec les accords du Wadi Araba qui a fixé les frontières. Et donc, dans ce conflit, on voit une Jordanie qui est effectivement qui a pris part en interceptant les missiles iraniens dans son espace dans son territoire en fait. Il faut savoir aussi qu'il y a des bases américaines, anglaises, françaises qui sont présentes en Jordanie qui ont aidé à l'interception de nombreux missiles. L'ambassade des États-Unis était une cible majeure pendant le conflit. Plusieurs missiles l'ont visé, plusieurs missiles iraniens qui ont été interceptés. La base de Mouafak Salti aussi. Quelques missiles se sont ont explosé non loin de cette base qui est à Azraq à l'est de la donc de Daman, à une centaine de kilomètres à l'est vers la frontière irakienne. Donc la Jordanie est un allié, on peut dire, des Occidentaux en général, un allié tacite des Israéliens, on peut le dire aussi légèrement. Puisque elle était plus dans la défense face aux attaques iraniennes que l'opposé. Cependant, le roi ne manque pas de condamner régulièrement les exactions d'Israël à Gaza, notamment. Il précise qu'il ne veut pas être un terrain de jeu de l'affrontement entre les deux puissances, israélienne et l'Iran, et aussi les États-Unis. Vous l'avez bien souligné, François-Xavier, le roi, le gouvernement a une position légèrement différente, même assez opposée par rapport à la rue. Dans la rue, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de la population jordanienne est 60% environ, on compte dans les recensements, est d'origine palestinienne. C'est une conséquence des conflits israélo-arabes, des expulsions de la Nakba, où quand les Israéliens ont pris leur indépendance et ont créé leur État, ils ont expulsé les populations palestiniennes arabes en grande partie vers la Jordanie, les conflits de 67 et donc aussi avec l'annexion de la Cisjordanie ont créé des grandes vagues d'expulsion de Palestiniens, ce qui fait que la majorité de la population jordanienne est d'origine palestinienne. Voilà, oui, le roi qui
il y a en Jordan effet aussi une continuité territoriale, il faut le dire, puisque la Jordanie, en fait la Transjordanie, et aussi une certaine continuité de la Cisjordanie qui peut aussi nourrir certains débats aujourd'hui sur l'avenir et sur les recompositions territoriales au cœur du Moyen-Orient.
Tout à fait. Alors, mais ça reste deux États bien indépendants, séparés par une frontière contrôlée par les Israéliens, cette frontière qui suit tout le Jourdain et la mer Morte, donc qui sépare bien les deux rives du fleuve Jourdain. Et donc, du fait de cette grande population d'origine palestinienne, voilà, on voit beaucoup de manifestations en centre-ville d'Amman pour la Palestine, pour lutter contre ce qui se passe à Gaza, le massacre des Palestiniens et tout le conflit en général. Après, les Jordaniens sont plutôt mitigés. Hein. Quand on discute avec eux, on sent que, certes, ils ne sont pas favorables à Israël et sa politique menée vis-à-vis de la Palestine et même du Moyen-Orient en général, mais ils ne sont pas férus de l'Iran non plus. Ce ne sont pas des grands. La Jordanie est un pays sunnite, 98% sunnite et 2% de chrétiens, mais à peine 2% de chrétiens. Donc, ce n'est certainement pas un allié de l'Iran. Et donc il y a une certaine division à ce niveau-là. Certains refusent de mener le combat contre l'Iran, de la solidarité avec la Palestine, contre Israël, et d'autres plutôt à Amman, dans les classes plus aisées, avec un certain réalisme, et espérer voir un peu une chute du régime iranien, ce qui ne s'est pas produit. On entend pas mal parler de gens qui étaient notamment choqués par la guerre en Syrie, et beaucoup de gens considèrent que l'Iran, via son allié Bachar el-Assad, a commis des atrocités pendant la guerre civile syrienne. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc voilà, une opinion assez partagée, mais tout de même anti-israélienne, et pro-palestinienne du fait de ses origines, et un gouvernement pragmatique qui, par le rapport de force, a dû s'allier tacitement avec les Occidentaux et Israël. Il y a un accord, par exemple, eau contre légumes entre Israël et la Jordanie, des échanges commerciaux importants, ce qui fait que la Jordanie a pris part de manière défensive dans le conflit avec l'Iran au cours de ces derniers mois, et l'année dernière aussi pendant la guerre des 12 jours.
Alors, en effet, une situation extrêmement complexe pour le roi jordanien, qui arrive quand même plutôt pas mal à sortir son épingle du jeu. Je pense que c'est aussi grâce à ses excellents services de renseignement. Et un sens de la diplomatie assez aigu qui est souvent attribué aux monarchies qui arrivent à établir une certaine stabilité au niveau international. Mais c'est vrai que c'est une situation qui doit pas être très très simple à gérer. Alors, en parlant de situation pas très très simple à gérer, je me tourne vers Antonin Dubois, donc notre chef de mission en Irak. Qui est dans un pays assez complexe, qui depuis le début de la guerre, alors l'Irak, depuis le début, après toutes les composantes, ont déclaré qu'elle ne voulait pas être entrée dans cette guerre. Les Kurdes au nord, alors Donald Trump voulait absolument que les Kurdes renversent le régime en Iran, traversent la frontière, servent de forces armées, comme ils ont pu le faire contre l'État islamique, par exemple, dernièrement. Mais ça ne s'est pas produit. Elle a voulu également essayer de peser sur le gouvernement irakien, qui a très clairement dit également, comme les Kurdes, qu'il ne voulait pas rentrer dans la guerre. Malgré tout, il y a une certaine influence de l'Irak sur la société irakienne et de nombreuses milices qui sont inféodées à l'Iran et qui défendent ses intérêts, voire qui la défendent tout court. Et donc quand l'Iran est agressé, qui répondent sur le sol irakien. Comment ça s'est passé depuis les premiers jours de cette guerre jusqu'à aujourd'hui, concrètement pour vous sur le terrain, en Irak?
Alors effectivement, depuis le 28 février dernier et l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, l'Irak a directement été impliqué sans le vouloir en fait dans ce conflit, puisque les milices chiites, notamment les forces de mobilisation populaire, les Arshad al-Shaabi, donc un ensemble de milices chiites qui avaient été formées suite à l'appel de l'ayatollah Sistani en 2014 pour combattre l'État islamique, ont directement pris part à ce conflit et également d'autres milices encore plus informelles que les forces de mobilisation populaire. Qui sont sous la bannière de Résistance islamique en Irak. Et ces deux grands ensembles de milices, en fait, ont très rapidement bombardé les bases américaines situées à Erbil, mais aussi celles de Soulaymaniyah ou encore à Douok, et puis voilà, des hôtels qui ont hébergé des soldats américains ou des entreprises américaines, ou même tout ce qui rapproche un petit peu de l'Occident. Donc c'était très compliqué en Irak. On a eu beaucoup, beaucoup d'attaques de drones pendant un mois et demi. Et voilà, ça a été une situation assez compliquée pour les gens. Et j'évoque notamment le cas des chrétiens d'Ankawa, puisque c'est la municipalité chrétienne d'Erbil qui se situe vraiment aux abords de l'aéroport et donc aux abords de ces bases américaines. Et ces chrétiens qui déjà, pour la plupart, avaient fui notamment la plaine de Ninive suite à l'invasion de l'État islamique entre 2014 et 2017, ont fait face à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges. Et voilà, ça a ravivé des souvenirs de guerre, de conflits, d'incertitudes dans un pays déjà très marqué par le chômage, notamment chez les jeunes. Malgré le fait qu'on ait des jeunes chrétiens éduqués avec un haut niveau d'études, bah, ça reste très compliqué pour eux de trouver un emploi. Et c'est l'un de notre travail ici avec SOS Chrétien d'Orient, c'est de permettre d'apporter des compétences à ces jeunes à travers des projets qu'on a de formation professionnelle pour les aider justement à trouver un travail. Donc je m'éparpille un petit peu, mais voilà, c'est pour rappeler tout le contexte de l'Irak. Et déjà, on ajoute à ces problèmes économiques et sociaux et ces problèmes, on va dire, interreligieux, un nouveau conflit, une nouvelle guerre qui n'est pas censée concerner l'Irak, qui ne concernait pas l'Irak, mais pourtant ces milices chiites irakiennes, proches de l'Iran, et même qui répondent directement aux ordres de l'Iran, qui ont bombardé sans cesse pendant de longues semaines les bases américaines situées à côté de ce quartier chrétien, même de cette municipalité chrétienne d'Ankawa. Et donc c'était compliqué, notamment également pour nos volontaires présents sur place. Alors on a toutes nos règles de sécurité, et François-Xavier Jiquel pourra vous en parler, et on a très bien géré les choses. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile également pour les familles à distance de voir, mais sans comprendre ce qui se passe dans le pays. Et voilà, on a fait les choses correctement, on a pu redéployer nos volontaires autrement, on a effectivement mis des choses en place pour qu'ils puissent continuer à travailler et à soutenir les populations malgré ces conflits. Mais voilà, tout en prenant la sécurité, puisque c'est notre priorité ici en Irak pour nos volontaires, et même pour notre équipe, et même pour moi-même en tant que chef de mission. Donc voilà, on a continué notre travail, mais évidemment, voilà, on a fait attention à nos déplacements, notamment dans la plaine de Ninive, puisqu'on a un tas de milices chiites, notamment les Chabaks, qui sont très présents dans la plaine de Ninive, dans des villages historiquement chrétiens comme Barthéla ou autour de Mossoul en général, la brigade 30 des Arshad al-Shaabi, justement. Qui est à la fois officiellement intégré au gouvernement irakien, mais trop autonome. Et c'est notamment un des combats d'Ali Azaidi, le nouveau Premier ministre irakien, mais on pourra en discuter plus tard. Mais voilà, c'est vrai que ça a impacté notre mission chez SOS Chrétien d'Orient, mais ça aurait été contre-productif pour une organisation humanitaire de quitter le terrain à ce moment-là, même pour nos volontaires. Donc on a pris les mesures nécessaires. Et puis ça a été très bien géré. Et puis je pense que je vais laisser ma collègue Alex de Franqueville, qui est responsable des volontaires, un peu évoquer le sujet. Voilà comment ça se passe pour les familles à distance, comment se passe la sélection de ces volontaires, comment se passent les candidatures. Donc là, je pense que c'est un sujet important pour nos auditeurs et pour ceux qui s'intéressent à SOS Chrétien d'Orient, à notre fonctionnement en mission, notamment pour nos volontaires.
Alors, en effet, on va passer la parole. Alors, je vais prendre mon rôle d'animateur dans cette émission, mais Antonin est lancé et ça fait bien plaisir que nos chefs de mission participent à la vie de cette magnifique radio qui est Radio Courtoisie. Et en effet, alors, Alix, bah, c'est vrai que vous avez dû gérer ça. On se trouve au milieu d'une guerre que certains ont qualifié de début de guerre mondiale. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. On voit que les choses sont en train de se tasser, mais on était quand même sur une poudrière. Bon, explosif, si on veut rentrer dans les métaphores liées à la poudre. Et en effet, on avait des volontaires au milieu. Je tiens, avant de vous poser la question, à préciser pour tous nos auditeurs que SOS Chrétien d'Orient, c'est 3 500 volontaires partis en mission, 3 500 volontaires rentrés de mission. Déjà, voilà. Posons les bases avant d'avancer. Bah, pourquoi c'est important d'avoir ces volontaires? Pourquoi est-ce que, in fine, dans ces périodes de tension, on ne ramène pas tout le monde à la maison et puis on attend que ça passe? Quelles sont les procédures que vous mettez en place pour vous assurer que, on envoie des profils qui sont quand même assez stables pour pouvoir partir en mission? Et puis, bah, Antonin en parlait, face aux inquiétudes des parents, comment vous faites pour répondre à tout ça?
Oui, tout à fait. Merci François-Xavier. Alors, je pense que déjà, il y a plusieurs choses. On reste très, très flexible, on va dire, dans notre manière de fonctionner. Déjà, en amont du départ, on va discuter longuement avec les volontaires pour s'assurer que, voilà, s'ils sont envoyés en Irak ou par exemple au Liban aussi, qui a connu pas mal de tensions au cours des derniers mois, on s'assure que le volontaire soit vraiment prêt à partir dans ce pays-là. On essaie, voilà, de l'évaluer sur plusieurs plans psychologiques, etc., pour s'assurer qu'il soit prêt à partir en mission. Et une fois que son départ en mission est acté, il ne faut pas oublier qu'il peut se rétracter à tout moment. On s'adapte vraiment aux craintes du volontaire et aux craintes de ses proches. Voilà, on est très transparent sur ce qui se passe en mission, sur nos règles de sécurité. Les volontaires sont vraiment formés de manière assez approfondie à la sécurité, que ce soit en journée de formation en amont du départ. On leur rappelle encore au cours d'un entretien individuel, ils ont une nouvelle formation à leur arrivée dans le pays de mission, qui est assurée par le chef de mission. Voilà, ça arrive aussi assez fréquemment qu'en fait le volontaire soit freiné par les craintes de sa famille. Voilà, le volontaire a vraiment ce souhait de partir en mission, il sent qu'il est prêt, qu'il est apte à partir. Mais voilà, parfois la famille, il ne faut pas l'oublier, peut être un point un peu bloquant. Forcément, c'est des pays qui ont un peu une réputation un petit peu complexe. Dans ce cas-là, nous, on reste très transparents, comme je le disais, et il n'y a pas de souci pour qu'on communique avec les familles. Ça nous arrive assez fréquemment d'être au téléphone, d'échanger avec les familles, avec les parents des volontaires. Et dans ce cas-là, voilà, il y a le responsable du pôle volontaire qui est là pour échanger avec les parents, mais il y a aussi le directeur des opérations, le directeur sûreté qui va être là pour répondre à toutes leurs questions. Et puis voilà, si le volontaire part en mission, il faut pas oublier que encore une fois sur place, au moindre problème, au moindre crainte du volontaire, le volontaire ne va pas être contraint d'accomplir sa mission jusqu'au bout s'il ne le sent pas. Voilà, on a eu le cas récemment, il y a quelques semaines, pardon, de deux volontaires qui ont préféré changer de pays de mission. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Voilà, donc on a organisé leur départ et puis elles ont rejoint un autre pays de mission pour les mois de mission qu'il leur restait. Voilà, on reste vraiment flexible sur ça. Et puis notre but, c'est vraiment d'accompagner le volontaire pour qu'il accomplisse sereinement sa mission, du début à la fin.
Merci beaucoup, Alix. Alors, en effet, il y a un truc que vous dites sur lequel j'insiste. Hein, il y a pas de pour les futurs volontaires, il n'y a pas de problème avec le fait d'être en lien avec vos parents. Moi-même, ça fait 12 ans que je travaille pour SOS Chrétien d'Orient. J'étais chef de mission en Irak pendant 3 ans, directeur des opérations depuis 2017. Et ma chère maman, que j'aime de tout mon cœur, m'appelle inquiète avant que je parte en mission à chaque fois. Et était encore à nouveau inquiète que je parte en Irak. Et m'a appelé à l'aéroport. Donc ne vous en faites pas. Il n'y a absolument aucune gêne à appeler la direction des opérations pour qu'on vous rassure. Et c'est normal. Moi, je commence à connaître un petit peu le Moyen-Orient. Mais si mes enfants demain m'annonçaient qu'ils partaient dans X pays d'Afrique que je ne connais pas, qui est au milieu d'une guerre civile, je serais moi-même tenter d'appeler l'association avec laquelle ils partent. Donc ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Mais en effet, c'est quelque chose qui nous est arrivé de nombreuses reprises. Hein. Vous imaginez que depuis 2013 que l'association existe, On a connu un certain nombre de conflits, puisque c'est quand même le but de la création initiale de l'association, et on a géré un certain nombre de crises. Et encore une fois, 3 500 volontaires partis, 3 500 volontaires rentrés. Alors, Yvon de Mercey, pour poursuivre vos activités, en fait, quelles sont vos activités principales? Parce qu'en fait, ça c'est important de dire ça, parce qu'en fait, les volontaires, on explique qu'ils partent en mission. On explique qu'ils sont là, qu'on leur évite au maximum de prendre des risques, on leur permet, et aux volontaires comme aux salariés, d'ailleurs c'est la même chose, on prend le même soin des volontaires que des salariés. En fait, mais pourquoi? En fait, la question est pourquoi? Vous, au cœur de cette crise, au cœur d'une crise qui frappe la Jordanie, on demandera la même chose à Antonin juste après, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites au milieu de cette guerre? Pourquoi vous ne seriez pas mieux auprès de vos proches? Qu'est-ce que vous faites à regarder les bombes passer dans le ciel de la Jordanie plutôt que de rentrer chez vous? Qu'est-ce que vous faites exactement en Jordanie au quotidien?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'on pourrait se dire, on pourrait se poser la question de pourquoi un Français, qu'est-ce qu'un Français viendrait faire dans ce pays où, en plein cœur de la crise, hein, en réalité. Et comme vous l'avez bien souligné, on a bien vu et entendu les bombes passer au-dessus de nos têtes au mois de mars, notamment. Mais bon, il faut savoir que la Jordanie est quand même bien sécurisée, donc il n'y a pas eu de dégâts humains. Dieu merci. Non, c'est pourquoi je suis venu en Jordanie, c'est pour la mission que représente SOS Chrétien d'Orient et l'aide qu'elle apporte à nos frères chrétiens dans tout le Moyen-Orient et plus spécifiquement en Jordanie. La Jordanie est une extension ou même une partie intégrante de la Terre Sainte, il faut le souligner. Il y a de nombreux lieux bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. On peut citer notamment la forteresse de Machéronte, qui est le lieu où Saint Jean-Baptiste a été décapité, mais avant tout aussi le lieu le plus important, plus célèbre, c'est le lieu du baptême du Christ, dans le Nouveau Testament, où Jésus-Christ, notre Seigneur, a été baptisé par Saint Jean-Baptiste, son cousin, qui est bien en Jordanie, il y a un sanctuaire ici. Et donc tous ces lieux témoignent...
Lieu où, il y a moins d'un mois, nous avons renouvelé les promesses de notre baptême tous les deux, Yvon de Mercey.
Exactement. Donc on peut vivre des moments spirituels très forts. Mais au-delà de ça, au-delà de ce lieu de pèlerinage, de ces lieux historiques, culturels, religieux, il faut rappeler que ce sont les premières communautés chrétiennes de l'histoire, hein, qui sont issues de Palestine, de Terre Sainte, qui se sont installées ici. Il y a aussi beaucoup de chrétiens jordaniens qui descendent des chrétiens arabes d'Arabie Saoudite, de la péninsule arabique, avec, on peut citer les noms de famille issus des grandes tribus chrétiennes comme Hijazin, qui signifie du Hejaz, donc d'Arabie Saoudite, donc ils sont remontés vers le nord, puisque la Jordanie est un espace au carrefour du Proche-Orient, du Golfe, de la péninsule arabique. Donc c'est un lieu d'héritage des premières communautés chrétiennes du Moyen-Orient, et donc je suis ici pour aider aux chrétiens à vivre dignement sur leurs terres ancestrales. Voilà, si on peut résumer ma mission, comment faire cela, comment réaliser cette noble tâche, cette grande tâche qui nous est incombée en tant que chef de mission en Jordanie. On a différents secteurs d'aide humanitaire. L'aide économique et sociale, l'aide à l'éducation. Nous aidons beaucoup d'églises, d'écoles, pardon. Nous avons aidé notamment l'année dernière à plusieurs dizaines de milliers d'euros, environ 30-40 000 euros, des écoles grecques orthodoxes, dans des rénovations d'infrastructures, de terrains de jeu, de sanitaires, de salles de classe. Nous avons financé une crèche, notamment dans l'école d'Aqaba, l'école orthodoxe d'Aqaba. Ou un nouveau terrain de jeu à l'école grecque orthodoxe de Fouès. Nous aidons des jeunes entrepreneurs à lancer leur entreprise. Nous avons aidé notamment une jeune femme du village chrétien, entièrement chrétien, des rares villages de Jordanie, être entièrement chrétien du village de Smakieh, à lancer son atelier de chandelles, de bougies, donc à pouvoir vivre de ses propres revenus, subvenir à ses besoins, parce que ce qui affecte le plus la Jordanie au-delà des conflits, puisque la Jordanie n'est pas directement touchée, c'est la crise économique, le manque de travail, la surcentralisation à Amman, l'émigration, tout le monde veut partir en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, vie, notamment les chrétiens qui sont un peu plus occidentalisés. Donc nous luttons contre ça, nous finançons également en ce moment même, nous finissons les travaux du centre d'accueil de jeunes filles défavorisées dans le foyer Beth Mariam, qui est un foyer tenu par des franciscaines dans le quartier pauvre et populaire d'Al-Hachimi à l'est d'Amman. Donc nous aidons à ces jeunes filles chrétiennes à avoir une dignité, une éducation après l'école. L'école finit assez tôt, au début de l'après-midi, 1h de l'après-midi environ, pour éviter le désœuvrement et parfois bien pire, hein, le délaissement dans la rue, l'isolement et leur éviter d'être entraînés par des bandes criminelles dans des activités illicites et atroces pour elles. Nous finançons ce centre d'accueil pour jeunes filles pour les aider à avoir une éducation tenue par des franciscaines notamment. Donc on va créer une nouvelle cuisine pour que aussi des femmes puissent cuisiner leurs plats et les revendre sur le marché. Voilà, nous avons financé d'autres cuisines associatives, des panneaux solaires pour les écoles, les églises, afin de réduire les frais de fonctionnement. Nous finançons des camps d'été pour les jeunes pour qu'ils aient certains cadres épanouissants, religieux, stables et sains, des centres paroissiaux à Carac pour qu'ils aient une salle d'études. Voilà, c'est très diversifié. Je fais beaucoup de gestion de projet, mais nous accueillons aussi pour cet été des volontaires. En Jordanie, nous n'avons pas des volontaires à l'année, mais temporairement. Donc c'est une mission assez variée. En tant que chef de mission, je suis aidé aussi d'une responsable de projet qui m'aide pour mener à bien tous ces différents projets, des différents thèmes dans différentes villes partout en Jordanie. C'est une tâche très intéressante, passionnante, de découvrir qui sont les chrétiens de Jordanie et comment les aider.
Eh bien, écoutez, je pense que c'est extrêmement clair. Et en effet, je pense que c'est important d'insister sur ce fait que la Jordanie est une prolongation de la Terre Sainte. Mais comme j'en parlais avec mes collègues aujourd'hui, je considère aussi, moi je suis biaisé hein, en tant qu'ancien chef de mission Irak, que l'Irak est une terre sainte également, parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments de la Bible en Irak, hein, Jonas et la baleine, le lieu de naissance d'Abraham, la tour de Babel, etc. etc. Donc les Yazidis nous diraient que l'Arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Sinjar, même si nos amis arméniens nous disent que c'est sur le mont Ararat. Mais voilà, on retrouve énormément d'éléments bibliques aussi en Irak, et c'est pour ça que du coup j'ai maintenant posé la même question qu'à vous, à Antonin Dubois, sur sa réalité au quotidien en Irak, parce que on parle de la guerre, on parle des bombes, on avait déjà fait une émission là-dessus il y a un mois et demi, mais on a un peu moins parlé de ce qui se passe au quotidien dans nos missions et ce que Antonin fait en Irak. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais quand même préciser pour nos auditeurs que Yvan de Mercey, vous parliez d'un engagement pour nos frères chrétiens d'Orient, un peu rapidement du rôle du chef de mission, de ce que vous faites sur place. Mais je tiens à préciser à nos auditeurs que ce soir, alors pour nous au Proche-Orient, il est une heure de plus que pour vous en France, donc il est 23h. Et je tiens à préciser que deux des personnes présentes dans cette émission, à savoir Yvan et Antonin, fêtent leur anniversaire ce soir et je leur souhaite un excellent anniversaire. Et ont choisi de passer cette soirée à parler de leur travail qui les passionne chez SOS Chrétien d'Orient, plutôt que d'aller faire la fête avec leurs amis orientaux, même si le temps n'est pas forcément la célébration en ces temps de guerre, mais on peut quand même trouver un petit créneau. Voilà, donc Antonin, déjà bon anniversaire, tout autant qu'à Yvan. Et quel est votre quotidien aussi à vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que c'est important en fait pendant la guerre de ne pas se replier, de rentrer en France, de plier bagages et d'attendre que le temps passe?
D'abord, merci beaucoup François-Xavier. Et effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que pour une organisation humanitaire, qui plus est pour SOS Chrétien d'Orient, quitter un territoire en guerre, en conflit, dans une situation délicate, ce serait totalement contre-productif, parce qu'on est justement ici pour aider ces populations chrétiennes, mais aussi yézidis ou même les Kurdes ou toute autre minorité, à rester justement sur leur terre. Et c'est le principal objectif des chrétiens d'Orient. Et c'est pour ça qu'on reste ici, quoi qu'il arrive, tout avec nos procédures de sécurité. Et on fait attention à la situation sur place, comme je l'expliquais en amont. Mais voilà, le quotidien en Irak a pas mal changé entre le 28 février jusqu'au cessez-le-feu début avril. On avait restreint quelques déplacements, mais voilà, on a fait autrement déjà avec nos volontaires, mais on ne va pas revenir dessus. Alix de Franqueville a déjà bien expliqué nos procédures et comment fonctionnait la vie en mission pour les volontaires. Mais comme l'a fait Yvan de Mercey, j'aimerais bien évoquer un petit peu notre travail sur place en Irak. Donc déjà, c'est important de noter qu'en Irak, on a deux régions assez distinctes, puisqu'on a la région autonome du Kurdistan irakien, donc le gouvernement régional du Kurdistan, qui dispose de son propre gouvernement, de sa propre armée, de ses propres institutions générales. Elle est certes rattachée tout de même au pouvoir central de Bagdad, mais voilà, ça reste une région très autonome dans laquelle on a l'habitude de travailler depuis maintenant plus de 10 ans. Et on y développe de nombreux projets, que ce soit déjà dans Ankawa, au plus près des communautés chrétiennes, puisque c'est le cœur de la communauté chrétienne d'Irak, mais aussi dans le petit village, même grand village chrétien d'Alkosh, situé dans la plaine de Niv, et qui est l'un des rares villages chrétiens qui n'était pas tombé aux mains de l'État islamique pendant l'offensive justement de l'État islamique entre 2014 et 2017. On travaille aussi dans le nord de l'Irak, dans les petits villages chrétiens autour de Douok, de Zaro, mais aussi dans la plaine de Niv, comme j'expliquais auparavant, notamment à Bartella, Karamles, également à Mossoul, Karakoche, évidemment, grande ville chrétienne de la plaine de Niv qui a été tombée malheureusement aux mains de l'État islamique il y a quelques années. Et voilà, et j'aimerais bien évoquer également aussi le nord de l'Irak, les petits villages assyriens, principalement de l'église assyrienne de l'Orient, avec ces villages qui sont formés en fait suite au génocide perpétré par les jeunes Turcs dans l'Empire ottoman en 1915, justement contre ces communautés arméniennes, mais aussi assyro-chaldéennes et les Rekontchik également, ce qui a créé justement ces villages situés aujourd'hui à la frontière turque. Et c'est des villages dont on entend peu parler aujourd'hui, mais que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques semaines à peine, justement juste après le cessez-le-feu. Et c'est voilà, c'est rentré dans ce contexte de ne pas oublier ces minorités chrétiennes et justement ces chrétiens du nord de l'Irak, on en parle peu. Et voilà, ils ont été largement touchés en fait par le conflit qui a opposé le PKK, donc une milice kurde marxiste, d'obéissance marxiste, qui lutte voilà pour l'indépendance du Kurdistan et qui est en conflit direct avec le gouvernement régional du Kurdistan irakien, mais aussi l'ennemi numéro un de la Turquie. Donc ça s'est calmé récemment puisque on a un processus de désarmement en cours. Mais voilà, ces villages chrétiens ont été pris en fait totalement en étau entre le PKK et entre l'armée turque. Donc c'est-à-dire que le PKK se réfugiait dans ces villages chrétiens, avait notamment l'habitude de voler des maisons, de s'installer illégalement dans ces villages, et dans le sens inverse, du coup, l'armée turque bombardait ces villages sans faire de distinction, et ça a notamment été le cas dans la vallée Narla, dans la vallée de Barwari, notamment dans le petit village assyrien de Miska où j'ai pu me rendre il y a pas quelques semaines. Et justement, c'est un peu le cœur de notre travail actuellement, c'est de permettre la reconstruction de ces villages, notamment dans le village de Miska, mais aussi d'autres villages aux alentours, notamment où on est tout proche de commencer la construction d'un système d'acheminement de l'eau, justement, avec des sources situées en contrebas de ce village, pour voilà, apporter l'eau directement à ce village, puisque encore aujourd'hui, le village se ravitaille en eau seulement par des gros bidons d'eau qui remplissent des tanks. Donc c'est un travail assez compliqué, très long, coûteux également. Donc voilà, c'est un travail actuellement qui nous prend pas mal de temps et qui est très utile, très intéressant pour ces communautés chrétiennes du nord de l'Irak. Et puis comme je le disais, on a toutes nos actions dans la plaine de Niv, notamment le centre professionnel Saint-Joseph, qui existe depuis, il me semble, en 2015. Donc, on rentre dans la 11e année des cours donnés au centre de formation professionnelle Saint-Joseph à Karamles, où on y forme justement des jeunes en fait, à différentes compétences, que ce soit dans l'installation de clim, les cours d'anglais, forme également des infirmières, les premiers secours. Et voilà, donc en fait, c'est des cours qui sont donnés à des jeunes qui n'ont malheureusement pas beaucoup d'opportunités dans le travail, qui plus est dans la plaine de Nif, c'est encore plus compliqué qu'à Erbil, par exemple. Et ça permet à ces jeunes de développer leurs compétences et de pouvoir ensuite voilà, soit poursuivre leurs études dans un autre domaine, soit chercher un travail, justement pouvoir chercher un travail. Et c'est également un projet qu'on développe enfin, de manière un peu similaire à Alcoche également, avec des cours de formation panneaux solaires. Et puis voilà, on a à la fois ces projets entre guillemets d'urgence pour les chrétiens du nord du pays, à la frontière turque, qui sont peu oubliés et dont on parle très très peu malheureusement, mais aussi ces chrétiens qui, malgré la fin de l'État islamique, souffrent toujours des conditions économiques et sociales très très compliquées en Irak. Et à ça, vous venez ajouter en plus une Irak prise au milieu du conflit entre Iran, Israël, États-Unis. Et voilà, donc on poursuit nos actions du mieux que l'on peut. Et voilà, on aide également d'autres communautés, notamment les Yézidis, de qui on est très proche ici, notamment du Baba Shawish, le chef spirituel de la Lish, avec qui on travaille en étroite collaboration, notamment pour l'installation de projets agricoles, notamment des serres, des donations de moutons en fait, directement faites à des villages qui permettent en fait d'accroître leur revenu en fait via la vente justement de voilà de légumes, de fruits, de lait. Donc c'est des projets très intéressants qu'on fait avec les EZG et le même genre de projet avec les chrétiens, notamment dans le nord de l'Irak comme je le disais, et voilà autour d'Erbil notamment, dans Kawa et voilà dans le petit village d'Alkosh. Donc on essaye de permettre à ces chrétiens individuellement de développer au mieux leurs conditions de vie ici. C'est un peu la priorité pour nous en Irak, c'est de permettre à ces gens de rester sur leur terre en développant en fait leur propre source de revenus, puisque comme je disais, les conditions économiques et sociales sont très très compliquées actuellement.
Alors, merci beaucoup, Antonin. Alors, en effet, on a parlé un peu de la situation en Jordanie, on a parlé de la situation en Irak. Donc, on commence à avoir un bon aperçu de ce qui se passe au cœur de cette guerre Iran, US, Israël. Et en fait, quand on parle Iran, US, Israël, il y a un pays qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est le Liban. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est ce soir avec Alix de Franqueville, qui en plus d'être responsable volontaire d'SOS Chrétien d'Orient, était elle-même volontaire au Liban et mène ce qu'on appelle chez SOS Chrétien d'Orient des entretiens de retour, hein, comme toute entreprise, entre guillemets, même si nous sommes une association à but non lucratif, on aime avoir un retour franc et honnête sur ce que pensent nos volontaires de leur mission, sur ce qu'on peut améliorer, sur ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut faire évoluer, etc. Et donc, Alix, en plus d'avoir été au Liban et d'avoir vécu une mission intense au Liban, à ces retours de tous ces volontaires qui rentrent de ce pays qui est durement frappé par la guerre aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut pas ignorer ce sujet d'actualité. Et du coup, Alix, bah, qu'est-ce que vous en tirez? Quelle est votre vision du Liban? À quel point les volontaires vous racontent l'importance de leur présence au cœur de cette guerre? Et en fait, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé également, c'est le témoignage. À quel point c'est important dans un pays comme le Liban, où les gens sont plutôt francophones, de voir des Français, de pouvoir échanger en direct, sans interprète, entre eux et les gens, pour porter le témoignage de toute l'amitié et l'amour que la France leur porte.
Oui, tout à fait, François-Xavier, vous avez raison. Les volontaires sont en général vraiment très très heureux de leur mission au Liban, notamment du fait qu'il est très simple et facile de créer du lien avec les Libanais, comme vous l'avez évoqué. La majorité, enfin beaucoup de Libanais en tout cas sont francophones. Beaucoup de Libanais avec lesquels on travaille souvent dans les milieux chrétiens, ils ont appris le français assez tôt. Donc c'est vrai que là, enfin ça facilite, vraiment la création d'un lien avec les Libanais. Je suis partie en mission il y a maintenant plus de 3 ans. Et voilà, je continue encore à garder des contacts avec beaucoup de Libanais que j'ai pu rencontrer pendant ma mission. Et puis aussi, il faut noter que les Libanais sont souvent très fiers, en fait, de pouvoir honorer, on pourrait dire, cette promesse qui avait déjà été faite par Saint Louis il y a plusieurs siècles maintenant. Saint Louis qui avait promis, en fait, d'accorder sa protection aux Maronites et qui avait dit que la France continuerait de protéger les Maronites au long de leur histoire. Donc voilà, il y a une vraie continuité qui s'observe. Vis-à-vis de cette histoire commune de la France avec le Liban. Et puis, en fait, il ne faut pas l'oublier que le Liban, c'est un pays qui est vraiment touché par la guerre actuellement, mais qui l'est, en fait, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Voilà, il a connu la guerre civile dans les années 80-90. Et donc, il y a des vrais besoins, notamment dans tout ce qui va être la reconstruction d'infrastructures. Je peux notamment évoquer un projet qui, moi, m'avait beaucoup tenu à cœur et qui continue encore aujourd'hui. Voilà, ça fait bientôt une dizaine d'années qu'il dure. C'est un prêtre qui va reconstruire un orphelinat quasiment tout seul, un orphelinat qui avait été détruit pendant la guerre civile. Donc voilà, les volontaires se succèdent depuis maintenant des années pour l'aider à la reconstruction de cet orphelinat. Donc voilà, on voit qu'il y a de réels besoins au Liban, que ce soit des besoins sociaux, des besoins médicaux, des besoins en termes de reconstruction. On peut évoquer aussi la destruction du port de Beyrouth suite à l'explosion. Il y a de réels besoins pour tout ce qui va être la reconstruction des habitations du quartier chrétien. Donc voilà, les besoins sont grands et les volontaires sont en général vraiment très heureux quand ils rentrent de mission. On a énormément de volontaires qui demandent à prolonger leur mission et qui sentent qu'en fait, au vu de la situation actuelle, il y a de vrais besoins qui sont créés.
Alors, merci beaucoup. En effet, sur ça, on a eu la chance d'être suivi par l'excellent, un des plus grands reporters de France, Régis Le Sommier d'Omerta, qui a sorti un excellent documentaire, Délivre-nous du mal, qui a suivi les équipes des SOS Chrétiens d'Orient engagées au Liban, au cœur de cette crise que le pays traverse actuellement. On rappelle que nos volontaires là-bas sont actifs sur deux fronts, si j'ose dire, même si nous défendons la paix à tout prix, à savoir accueillir tous ces déplacés, puisqu'on rappelle que presque entre un quart et un tiers du peuple libanais a été déplacé pendant cette guerre, il a été chassé de tous les villages du sud, et le sud au sens très large, chassé vers le nord du pays par l'armée israélienne. Et donc il a fait bien accueillir ces gens, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs origines, pour leur donner à manger, donner du lait aux enfants, donner des couches, donner des couvertures, donner des matelas, donner de la nourriture tout simplement pour qu'ils puissent survivre. Mais également, une autre partie des volontaires a participé à continuer à donner des cours informels aux enfants, puisque depuis le début de cette guerre, les écoles sont fermées. Et il est extrêmement important que ces enfants ne soient pas cloîtrés chez eux à ne rien faire. On voit que l'inactivité, en fait, tue une société durant ces périodes de guerre. Et ces pays qui sont régulièrement frappés par la guerre, et en fait, ils ont besoin de continuer à vivre. Et c'est pour ça notamment que les volontaires qui sont déployés dans le centre de Tripoli, nous avons un centre culturel SOS Chrétien Orient à Tripoli, on continue à accueillir des dizaines et des dizaines d'enfants chaque jour pour à la fois évidemment des cours un peu scolaires, de soutien, de mathématiques et autres, mais également des cours de musique, des cours d'anglais. Pour les occuper, au cœur de cette guerre. Donc je vous invite à regarder le reportage produit par Omertin que vous trouverez sur leur site, Délivre-nous du mal, qui a été projeté en avant-première il y a 2 semaines, il me semble, dans un cinéma parisien, et qui est vraiment poignant. Yvan de Mercey, pour vous, comment vous voyez les choses un petit peu? On voit que Donald Trump est un peu concentré actuellement sur les 250 ans des États-Unis. On voit que il s'est mis dans des négociations pour essayer d'obtenir globalement le statu quo ante, rouvrir un détroit qui était déjà ouvert avant, engager des négociations sur le nucléaire qui était déjà engagé avant, et éventuellement débloquer des fonds gelés qui ne l'étaient pas avant pour réparer des dommages que les États-Unis ont eux-mêmes causés en Iran. Est-ce que pour vous, c'est un début de stabilité pour la région? Parce que je sais que vous étiez, ça faut le préciser aussi pour nos auditeurs, vous étiez volontaire en Syrie avant d'être chef de mission en Jordanie. Et comment vous voyez un petit peu l'avenir dans la région? Alors moi, je déteste à titre personnel faire des prédictions parce que c'est extrêmement compliqué dans la région, donc c'est pas ce que je vous demande de faire. Mais comment est-ce que vous ressentez simplement en tant que personne habitant sur place, discutant avec des gens sur place, quel est l'état d'esprit? Quelles sont les attentes? Quelles sont les espérances? Quelles sont les craintes sur place?
Oui, comme vous le dites, c'est compliqué de faire des prédictions, surtout dans une région aussi instable qu'est le Moyen-Orient. En tout cas, les conclusions qu'on peut tirer des 5 derniers mois de ce conflit, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'issue très claire. On est encore en pourparlers, enfin, il y a encore des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Israël n'est même pas forcément inclus puisqu'il continue de vouloir annexer le Liban et continue d'être assez intransigeant. On voit que le vice-président J.D. Vance fait pas mal d'allers-retours entre le Pakistan, les États-Unis et la Suisse pour réaliser des pourparlers entre les deux puissances et pour mettre un terme à cette guerre. Est-ce que c'est de bonne volonté? Est-ce que c'est de la pure communication? Ça, on ne peut pas le dire. Mais bon, il y a des tentatives timides de se parler. Pour prédire, je ne sais pas, mais on n'est ni dans une guerre, ni dans un conflit, ni dans un temps de paix, puisqu'on voit que les États-Unis frappent l'Iran, ont frappé récemment, il y a quelques semaines, 1 semaine, 10 jours, l'Iran, il frappe de manière sporadique quand ils en ont envie. Et donc, on voit que il n'y a pas vraiment de d'issue claire, en fait, à ce conflit. L'Iran a montré qu'il était résilient face à une invasion face à des attaques de deux armées extrêmement puissantes, parmi les plus puissantes du monde, enfin les États-Unis et puis Israël. Mais il a besoin quand même de tisser des partenariats, il a besoin de cette paix aussi pour pouvoir rouvrir le commerce à l'international et pour pouvoir normaliser ses relations avec ses voisins. Pour ce qui est de la région, ça a été chamboulé. Comme vous avez parlé de mon expérience en Syrie, j'étais volontaire sous la Syrie de Bachar al-Assad pendant la dernière année et demie du régime bassiste. Aujourd'hui, la donne est complètement changée. Le président Chara a reçu aujourd'hui Emmanuel Macron. Il y a eu une tentative d'assassinat ratée d'ailleurs à Damas, donc on voit que le pays n'est toujours pas stabilisé. Mais la Syrie, par exemple, qui était un allié, une plateforme majeure de l'Iran et de son proxy, le Hezbollah, maintenant est un allié objectif des États-Unis, des Occidentaux. Ils sont en conflit ouvert avec Israël aussi vis-à-vis du Golan, mais on voit qu'il y a eu des tentatives de pacifier les relations avec leurs voisins au sud. On voit que le Liban, effectivement, le sud-Liban est encore occupé et en voie d'annexation, s'il n'y a pas encore d'intervention des États-Unis pour limiter ça, mais on voit que c'est un point crucial des négociations entre l'Iran et les États-Unis, mais ce n'est pas près de se terminer. Et puis Gaza, on a vu qu'hier, le Hamas avait dissous ses autorités politiques, ce qui est rentré dans le processus de paix prévu par Donald Trump et ses alliés pour mettre fin au conflit en Palestine. Mais qu'en est-il de la Cisjordanie? On voit qu'il y a plusieurs associations israéliennes qui ont alerté sur la tentative de grignotage des Israéliens, des colons, notamment un juif extrémiste, qui sont en train de prendre des territoires progressivement en Cisjordanie. La Palestine, le conflit israélo-palestinien n'est absolument pas résolu. Il y a le premier opposant de Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett, qui ne semble pas être prêt à entamer des négociations ou une reconnaissance de l'État de Palestine. Donc on voit qu'il y a des situations la situation stagne sur beaucoup de points, elle a évolué énormément, mais elle est toujours aussi instable. Et on est vraiment dans à la fois un statu quo et une zone très mouvante, très instable, très incertaine, où on ne sait pas de quoi demain sera fait. De quoi sera fait l'accord final entre l'Iran et les États-Unis? Est-ce que ça durera plusieurs années, quelques mois, ou ce sera signé demain? On ne peut pas le savoir, on ne peut pas le prédire. Voilà, tout ce qui en est, c'est qu'on a des conséquences réelles en Jordanie vis-à-vis du tourisme. L'économie se meurt. Vraiment, on voit Petra, qui est une des sept merveilles du monde moderne, est vide de touristes. Il n'y a plus aucun touriste, ce qui est dû à la fermeture de nombreuses lignes aériennes à cause du coût du pétrole et des assurances et des risques liés aux tirs entre les deux puissances, ce qui fait que beaucoup de compagnies aériennes annulent beaucoup de vols. Et donc, la Jordanie, qui vit du tourisme, c'est 14% de son économie environ, est complètement et en grande partie asséché par ce manque à gagner. Donc l'économie du Moyen-Orient en pâtit, et aussi en Europe avec la montée du prix du pétrole. Donc quand est-ce que tout ça se terminera? Je ne sais pas. Et honnêtement, je ne suis pas très optimiste pour le moment.
Merci beaucoup, Yvan de Mercer. En effet, il faut rappeler ça. Vous avez raison de rappeler aussi donc la terrible réalité économique de la Jordanie et l'actualité récente de la Syrie, puisqu'en effet, avec le déplacement du président Macron, il y a des attentats qui ont frappé la capitale, qui sont pas isolés, puisqu'il y a quelques jours, une explosion a visé aussi, il me semble, un tribunal à Damas. Donc la situation est loin d'être stabilisée. On reparlera de tout ça un petit peu après. On va passer un petit bobino et on vous revient dans quelques secondes.
Savez-vous que l'été dernier, plus de 300 000 chiens et chats ont été abandonnés sur la route des vacances? Chaque année, des maîtres indignes claquent leurs portières et s'en vont, laissant derrière eux un compagnon fidèle qui, lui, ne les aurait jamais abandonnés. Cet été, n'abandonnez pas Radio Courtoisie, qui elle aussi reste fidèlement à vos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons besoin de 200 000 euros pour continuer à émettre cet été et vous préparer une rentrée percutante. Un euro, rien qu'un euro, pour nous aider à traverser la période la plus difficile de l'année. Ne nous abandonnez pas. Par avance, merci de votre fidélité. Cet été encore, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Radio Courtoisie, libre et indépendante, grâce à vous.
Alors, chers auditeurs, nous sommes de retour sur le Libre Journal de l'Occident. Je ne peux qu'appuyer ce que vous venez d'entendre dans le bobino. En effet, Radio Courtoisie, c'est notre radio, c'est votre radio. Nous-mêmes, patrons d'émission, avec le plus grand des honneurs et le plus grand des plaisirs, bénévolement, nous essayons de vous partager ce que la France a de plus beau et en termes également d'actualité artistique, internationale, etc. S'il vous plaît, soutenez Radio Courtoisie. donner sans vous, même à partir d'un euro, hein, réellement, vous êtes nombreux à écouter Radio Pontoisie, un euro fois le nombre d'auditeurs que nous recevons, ça fait vraiment la différence. Et avec les attaques que Radio Courtoisie subit en permanence, l'argent de nos donateurs et de nos généreux donateurs fait vraiment la différence pour que nous puissions continuer à porter une parole libre et diverse sur les ondes françaises. Donc merci à vous pour votre soutien. Donc nous parlions juste avant ce bobino de des espérances et des craintes des gens vivant en Orient. Situation économique compliquée. Bon, je pense que c'est quelque chose qui ne fait défaut à aucun des pays dans lesquels nous travaillons, hein. La situation économique est extrêmement compliquée partout, même en France, hein, vous le savez tout aussi bien que moi. Mais on va aussi parler de situation spirituelle, puisque pour les chrétiens d'Orient, c'est aussi quelque chose qui est fondamental, puisque vous savez, parfois, c'est même marqué sur leur carte d'identité, chrétien, sunnite, chiite, etc. Et c'est plus qu'une identité religieuse, c'est une identité religieuse, spirituelle, communautaire, et même identitaire. Et en Irak, par exemple, donc vous sentez que je vais passer la parole à Antonin Dubois dans quelques secondes. En Irak, les chrétiens, en fait, sont très peu représentés par une caste politique qui est extrêmement divisée, qui parfois fait le travail, parfois ne le fait pas, mais qui est surtout très divisée, donc qui n'arrive pas forcément, malgré les sièges réservés au Parlement, à défendre leurs droits, et qui se retrouve, en fait, représentés principalement par les dirigeants des églises. Et ce sont c'est le patriarche et ce sont les évêques des différentes églises le patriarche chaldéen et les évêques des différentes églises qui rencontrent régulièrement le gouvernement de la région autonome du Kurdistan ou le gouvernement irakien pour essayer de préserver les droits des chrétiens et pour essayer de se battre pour dans cette société garantir le droit d'exister, de vivre, de faire du commerce, de pratiquer leur religion de ce peuple qui en fait est le peuple originel d'Irak, en fait, qui est vraiment, c'est pas un peuple qui est ajouté, c'est pas une minorité, c'est une composante de la société irakienne. Donc Antonin Dubois, il y a eu dernièrement, après quelques remous en Irak, l'élection d'un nouveau patriarche. Quelle portée ça a et qu'est-ce que ça représente pour les chrétiens d'Irak exactement?
Alors effectivement, on a un nouveau patriarche dans l'église chaldéenne depuis avril dernier, suite au synode des évêques chaldéens qui s'est tenu à Rome justement en avril dernier. Et justement, désormais, c'est sa béatitude Paul III qui est patriarche de l'église chaldéenne, donc il siège à Bagdad. Et c'est un beau signe d'espérance, comme vous l'expliquiez, puisque ce nouveau patriarche était auparavant archevêque de Sydney en Australie et avait notamment dû fuir Mossoul, puisqu'il était auparavant évêque de Mossoul. Donc c'est un beau signe d'espérance, en fait, puisque on parle souvent de l'exode des chrétiens d'Irak qui ont fui massivement vers l'Europe, aussi vers les États-Unis. On a notamment une grande communauté de Chaldéens aux États-Unis, mais aussi en Australie. Et plus récemment, la nouvelle tendance, ça a été la Jordanie, un peu moins tout récemment, mais voilà, ça reste un pays qui a accueilli beaucoup de chrétiens d'Irak. Et donc voir, en fait, un patriarche qui est lui-même issu de la diaspora, enfin, même s'il a passé seulement 10 ans en Australie, c'est un beau signe d'espérance pour ces gens. Et j'en parlais notamment avec des fidèles ici qui voyaient l'élection de sa béatitude Paul III, un signe de renouveau pour l'église chaldéenne et pour les chrétiens d'Irak en général, pas seulement pour les chaldéens, mais aussi pour les autres églises, hein, puisque on a une multitude d'églises importantes ici en Irak, l'église assyrienne de l'Orient, l'ancienne église de l'Orient, les Syriaques, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, mais aussi des minorités arméniennes. Donc voilà, c'est un beau signe d'espérance de voir le nouveau patriarche qui est lui-même issu de la diaspora. Et puis, on travaille notamment chez SOS Chrétien d'Orient à promouvoir le retour des chrétiens d'Irak qui avaient fui le pays à cause de la guerre. Et c'est notamment l'exemple d'un espace de coworking qu'on développe dans Kawa avec l'un de nos partenaires qui est franco-irakien, Jinan Adamat, qui est lui-même en fait un Irakien né en Irak, mais qui avait fui très rapidement le pays avec sa famille. Il était tout bébé, il avait seulement 1 an quand il est parti au tout début de la guerre du Golfe. Et il a décidé de revenir il y a quelques années en Irak pour justement retourner sur ses terres, comme l'expliquait François-Xavier Jiquel. C'est la terre des chrétiens, des Assyriens originellement. C'est une composante de l'Irak. Et il a voulu revenir ici justement pour promouvoir le retour, notamment à travers son ONG, Le Retour, qui permet d'aider cas par cas. Le retour des chrétiens de la diaspora en Irak, à la fois via cet espace de coworking comme j'en parlais, mais aussi voilà soutenir ces gens dans les démarches administratives, dans les démarches de retrouver un logement, de refaire les papiers d'identité. Donc voilà, c'est important pour ces gens de trouver espoir en quelque chose, parce que comme l'expliquait François-Xavier, compter sur la politique en Irak, c'est très compliqué, bien qu'on ait un député irakien à Bagdad, Monsieur Kaldogana, très important, très bien vu ici, qui a eu une grande majorité de la part des chrétiens d'Ankawa lors des élections en 2025. Il est notamment leader du bloc chrétien Soyana, mais voilà, ça reste très minoritaire, puisqu'il ne dispose que de quelques sièges, il me semble 3 sièges au Parlement de Bagdad, et donc ça reste très compliqué. Et puis effectivement, les gens se reposent beaucoup sur la voix des évêques, sur la voix du patriarche, sur la voix des prêtres dans les petits villages, d'autant plus récemment, on a des conflits importants et compliqués entre justement les chrétiens, notamment de la plaine de Ninive et des villages autour de Douok, avec justement leurs voisins kurdes. Là, on est en plein dans l'actualité. On en parle très peu. Je vois très peu la chose passer dans nos médias en Occident, mais c'est pour ça que j'en parle ce soir. Mais c'est très important d'évoquer ce sujet également, c'est que même au sein du Kurdistan irakien, la situation est compliquée pour les chrétiens, déjà pour les difficultés économiques que j'évoquais auparavant, mais aussi actuellement pour voilà, des histoires de vol de terre, d'incendies volontaires qui auraient été déclenchés par des voisins kurdes jaloux des terres détenues par les chrétiens, etc. Voilà, dans une idée d'expansion de ces villages kurdes au détriment de ces villages chrétiens. Et on est en plein dedans justement parce qu'on a aussi eu l'agression d'un maire chrétien dans la vallée Narla, j'en parlais juste avant, mais voilà, c'est très compliqué pour les chrétiens, mais justement, ils espèrent et ils se reposent sur la voix de ces évêques et de ce patriarche qui sont très respectés ici en Irak. On voit notamment sa béatitude Paul III qui a été très actif récemment hein, depuis son élection, puisqu'il a pu visiter tout l'Irak, tout le pays dans son entièreté. J'ai notamment pu le saluer. Il y a seulement 3 semaines à Ankawa, justement, où il était en visite. Et puis voilà, nos volontaires ont aussi pu avoir ont aussi eu l'honneur de le rencontrer à Alkosh. Et effectivement, les fidèles voient cette élection comme un renouveau pour les chrétiens d'Irak, comme un signe d'espérance, puisque c'est très compliqué politiquement pour les chrétiens d'Irak qui sont vraiment sous-représentés. Et voilà, on espère et on prie également pour la mission de sa béatitude Paul III et pour l'union des églises en Irak et pour ses fidèles, pour qu'ils puissent rester sur leur terre.
Alors, Antonin, vous nous parlez des Chaldéens, en effet. Donc, rappelons-le, hein, les Chaldéens sont la branche catholique des églises assyriennes, puisqu'il y a 2 églises assyriennes qui existent aujourd'hui, qui sont vraiment les églises originelles de la Mésopotamie et de la Perse, mais qui s'étendaient même jusqu'à la Chine, hein, à une certaine période. Et qui comptait plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de croyants au 5e siècle, ce qui est absolument énorme quand on connaît la démographie de l'époque. Donc vraiment, c'est l'église locale ici en Irak, mais aussi dans la région. Et quand on parle de ces diversités, parce que c'est parfois difficile, d'ailleurs, je vous invite, hein, si vous voulez en apprendre plus sur l'église orientale, sur les églises orientales, à écouter l'excellente émission de notre directeur général Benjamin Blanchard, qui en est à sa 70e émission sur les chrétientés orientales et qui vous explique tout les unes après les autres. C'est absolument fascinant. Et notamment, si vous êtes chercheur sur le sujet, je vous invite à écouter ces archives parce que vraiment, c'est dense, complet. Et extrêmement intéressant. Et quand on parle de cette diversité, ben en fait, on a parlé depuis le début de cette émission de ce qu'on faisait concrètement pour aider les gens. On a parlé concrètement des craintes, des espérances. Et avec l'intervention d'Antonin, on a parlé des diversités en fait de ces églises. Mais pour en revenir à SOS Chrétien d'Orient, puisque évidemment, vous imaginez bien que je vais tirer la couverture à nous un petit peu ce soir, puisque j'en ai l'opportunité, et que je le fais relativement rarement dans cette émission, j'aimerais parler de la diversité de nos équipes. Et en fait, ce que ça apporte aussi à l'aide qu'on fournit sur le terrain. Donc, Alix de Franqueville, vous êtes responsable des volontaires. Depuis 2013, SOS a envoyé 3500 volontaires sur le terrain. On voit qu'il y a une diversité qui est absolument énorme, même si on a un profil type évidemment qu'on retrouve dans l'émission, mais on a envoyé des gens de 18 à 90 ans, on a envoyé des Français, des Italiens, on a nous-mêmes en Irak dans quelques jours un Pakistanais qui nous rejoint pour se porter volontaire pour aider ses frères chrétiens irakiens. Voilà, toute cette diversité, qu'est-ce que ça apporte, comment vous le vivez, comment vous le gérez, parce que ça va pas être très simple non plus, et puis en fait globalement, comment vous faites pour les recruter, pour les accompagner, pour gérer leur intégration dans les missions et les aider à leur retour?
Oui, effectivement, François-Xavier, vous avez raison. Un des gros atouts de SOS Chrétien d'Orient, c'est la diversité de ses volontaires. Donc certes, comme vous le disiez, voilà, on a un profil un peu type du volontaire. Donc voilà. La grande majorité des volontaires sont français, mais il ne faut pas oublier qu'on a des volontaires de nationalités très différentes. On a beaucoup de Canadiens. On a beaucoup d'Italiens, de volontaires issus de d'autres pays d'Europe. On a aussi de plus en plus de volontaires qui, en fait, ont habité dans des pays du Moyen-Orient où nous travaillons et qui, par exemple, ont fui la guerre, voilà, sont arrivés en France pour différentes raisons et qui maintenant ont à cœur aussi de rendre service. Et donc, voilà, on a des volontaires qui parfois repartent aussi en mission. Donc, on a une grande variété des profils sur ce point-là. Le prérequis, c'est d'avoir 18 ans minimum, mais il ne faut pas oublier voilà, qu'on peut avoir des volontaires, comme vous le disiez, qui peuvent avoir jusqu'à 80, 90 ans, je crois que c'est déjà arrivé. Donc voilà, le seul prérequis, ça va être, du coup, je dirais, d'être dans une condition physique satisfaisante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même des projets en mission, des activités qui nécessitent d'être dans une bonne forme physique, notamment pour les chantiers, etc. Et puis même en termes religieux, on peut avoir des volontaires, certes la majorité sont catholiques, mais nous avons également des orthodoxes, on a beaucoup de volontaires athées de plus en plus qui ont à cœur de rendre service et puis d'aller au contact directement des communautés orientales. Donc voilà, donc vous nous avez évoqué éventuellement de faire un petit point sur comment on accompagne et comment on recrute ces volontaires. Donc on a un processus de recrutement qui s'organise en 4 étapes. Les volontaires qui souhaitent nous rejoindre vont tout d'abord constituer un petit dossier administratif. Donc voilà, ils vont nous fournir quelques documents. Ils vont surtout nous parler en fait de leur motivation, pourquoi ils ont décidé de partir en mission avec SOS Chrétien d'Orient, comment ils ont connu l'association. Voilà, on essaye un peu d'établir un premier profil du volontaire. Puis ensuite, tous les volontaires doivent assister à une journée de formation. Cette journée de formation a pour objectif d'expliquer le fonctionnement de nos missions, d'expliquer un peu nos grands principes de fonctionnement, notamment autour de la vie en collectivité, de la manière dont on responsabilise les volontaires quand ils sont en mission. On a vraiment à cœur de responsabiliser effectivement nos volontaires pour qu'ils soient réellement acteurs de leur mission, qu'ils prennent en main leur mission. Voilà, c'est quelque chose qui va être très important pour nous. On va notamment aussi un peu leur expliquer voilà, le fonctionnement de la mission sur place, comment s'organisent toutes les relations entre les différentes communautés. On va faire un gros point géopolitique également pour que les volontaires partent en mission en étant vraiment armés et qu'ils aient les clés en main pour vivre sereinement leur mission. Ensuite, tous les volontaires doivent réaliser 3 missions bénévoles pour faire connaître l'association, récolter des dons nécessaires forcément au fonctionnement de l'association. Et une fois qu'ils ont réalisé ces 3 actions, qu'ils ont réalisé leur journée de formation, chaque volontaire doit passer un entretien individuel avec les responsables du pôle volontaire, qui permet en fait de déterminer si le volontaire est apte à partir en mission, voir en fait dans quel pays de mission il pourrait être le plus utile, dans quel pays il pourrait le plus s'épanouir aussi et vivre sereinement sa mission. Et voilà. Et une fois que si l'entretien s'avère concluant, le volontaire part en mission. Donc il faut se dire qu'en fait, ce processus de recrutement, il est très rapide. En fait, un volontaire qui souhaite partir, en un mois, il peut réaliser toutes ces étapes et partir en mission, que ce soit pour une durée minimale de 28 à 28 jours en été. Et ça peut aller jusqu'à un an, voilà, si le volontaire le souhaite en fonction de ses disponibilités. Et il peut bien sûr prolonger aussi une fois qu'il est sur place. Donc voilà, on a un processus de recrutement qui est assez complet. Vraiment, l'objectif, c'est que le volontaire soit accompagné du début à la fin de sa mission. Et le pôle volontaire est également là pour épauler le volontaire pendant toute sa mission, pour tous les besoins administratifs ou de suivi.
Eh bien, vous avez bien raison de parler de l'engagement des volontaires, puisque nous, chez SOS Chrétien d'Orient, on favorise aussi l'engagement au retour. Alors, une phrase que tous les volontaires ont entendue, que nos 3 500 volontaires ont entendue, c'est « Ta mission commence maintenant », et c'est la phrase qu'ils entendent quand ils quittent la mission. Déjà parce qu'ils ont un devoir de témoignage, ça c'est extrêmement important chez SOS Chrétien d'Orient, c'est un de nos 3 piliers, un devoir de témoignage, d'expliquer à leur retour en France, auprès de leur famille, de leur école, de leur entreprise, de leurs collègues, de leurs amis, ce qu'ils ont vu et quelle est la réalité des chrétiens d'Orient. Mais également de s'engager. Nous poussons les volontaires à s'engager dans l'associatif, à prendre des initiatives et aller de l'avant. Et c'est le cas d'un de nos anciens volontaires et chefs de mission, Jérémy Convert, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui a été chef de mission en Égypte pendant plusieurs années, et qui, à l'issue de son passage chez SOS Chrétien d'Orient, a décidé de s'engager personnellement auprès des communautés religieuses du village de Taïbé, qui est un des derniers, qui est le dernier village chrétien, 100% chrétien de Cisjordanie, au sein d'une école, afin de donner des cours au sein de cette école, et qui a proposé, qui nous a demandé de proposer à tous nos anciens volontaires de le rejoindre, puisque cet été, il organise un camp d'été avec les jeunes de Taïbé. Qui vit une situation particulièrement sensible. Donc déjà, de une, je vous engage à le rejoindre. N'hésitez pas à écrire à SOS Chrétien d'Orient si vous voulez rejoindre Jérémy Convert dans ce camp d'été à Taïbé cet été. Mais surtout, je me tourne vers Yvan de Mercé, qui est notre responsable pour la Jordanie et pour la Terre Sainte. En fait, ce village de Taïbé, on en parle beaucoup. Il y a même des élus qui sont intervenus auprès de l'Union européenne notamment, puisque ce village subit de graves attaques et est menacé, hein, clairement, son existence même est menacée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le village de Taïbé, Yvan de Mercé?
Et vous avez bien décrit ce village. Donc c'est le seul village 100% chrétien de Cisjordanie. Il compte un petit peu moins de 1 400 habitants, avec une grande diaspora qui fait 10 fois la taille du village en Cisjordanie. Une diaspora présente en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Jordanie notamment. Donc il est composé des 3 églises différentes qu'il y a en Terre Sainte et en Jordanie, grec orthodoxe, latin et grec catholique, melkite. Au cours de mes opérations, voilà, on m'a demandé d'aller à Taïbé et nous allons apporter une aide pour l'instant modeste, mais qui est un début de nos activités dans ce village, une aide des activités culturelles autour de danse et d'instruments de musique du dabké pour maintenir la culture locale palestinienne au sein de ce village. Nous sommes en lien avec les différentes églises et écoles et j'ai pu voir les différentes attaques qu'ont pu subir les habitants de Taïbé au cours des dernières années, notamment l'année dernière, à peu près à 1 an près, il y a eu des tentatives de brûler les ruines de l'ancienne église de Taïbé, l'église orthodoxe. Il me semble que c'est une église orthodoxe. On voit encore les traces de départ de feu que des colons juifs extrémistes avaient tenté de démarrer dans les ruines de cette église, assez iconique. Également récemment, il y a quelques semaines, il y a eu des départs de feu sur des champs agricoles. Taïbé est un village qui vit beaucoup de l'agriculture, notamment de la production d'olives et d'huile d'olive. Et les colons ont essayé de faire démarrer des incendies volontairement pour détruire l'activité économique des habitants de Taïbé. Il y a eu des attaques répétées au cours des derniers mois aussi, des voitures brûlées, des vols, des squats de terrain aussi. On voit, il y a des images qui s'est documentées hein, par certains humanitaires européens qui étaient là sur place au moment des événements, où on voit des colons squatter des terrains appartenant aux habitants de Taïbé. Donc c'est une situation extrêmement difficile pour ces chrétiens palestiniens, qui sont impuissants face aux attaques répétées des colons israéliens. Les autorités de Palestine ne peuvent pas faire grand-chose non plus. C'est compliqué de répliquer, c'est compliqué de se défendre. Que faire? Beaucoup ont choisi l'émigration, quelques-uns restent, et comme notre ancien collègue Jérémy, il y a certains volontaires européens qui ont décidé de partir pour aider aussi ce village, pour les camps d'été. C'est un village assez vitrine en fait, il est assez médiatisé parce que le fait qu'il soit entièrement chrétien et le fait qu'il soit régulièrement attaqué par des colons lui permet d'avoir une certaine médiatisation. Et de nombreux consulats européens ont apporté de l'aide à ce village pour des développements de projets. Mais c'est le quotidien aussi dans de nombreux villages, pas entièrement chrétiens, mais avec une présence chrétienne, où des Palestiniens sont régulièrement humiliés, attaqués, violentés, agressés par des colons juifs extrémistes sous le regard complice et passif de l'armée israélienne.
Alors, en effet, une situation absolument dramatique, puisque, en fait, vu de la France, c'est très, très, très compliqué d'essayer d'alerter l'opinion, une opinion qui est extrêmement clivée en France. Les Palestiniens sont. La cause palestinienne est reprise par la gauche et l'extrême gauche et sont les victimes éternelles qui n'ont absolument jamais rien fait. Dans certains milieux de droite. Mérite de subir toutes les affres de la planète et de ne absolument pas être soutenu quoi qu'il leur arrive parce que il faut absolument soutenir Israël à tout prix sans faire aucune distinction des différents courants politiques qui existent dans ce pays et encore moins des colons qui échappent totalement au contrôle des autorités israéliennes voire qui sont même soutenus par certaines franges extrémistes des partis politiques israéliens. Alors en parlant de partis politiques, Antonin Dubois, dernièrement, il y a eu des élections en Irak qui ont été extrêmement importantes. J'avais fait une chronique sur Radio Courtoisie il y a quelques mois, alors qu'après les élections législatives, on craignait, hein, je pense que c'est le terme, il faut le dire, que Nouri al-Maliki, qui était un dirigeant extrêmement clivant, qui a dû endosser d'ailleurs la défaite face à l'État islamique en 2014, arrive au pouvoir, puisque c'était globalement ce qui s'était mis en place à la suite de ces élections législatives. Et finalement, peut-être suite à la pression américaine, peut-être suite à d'autres propositions politiques en Irak, il en a été autrement. Quelle est la situation politique aujourd'hui en Irak et quels sont les enjeux?
Alors effectivement, ça a été compliqué pendant de longs mois pour la formation du nouveau gouvernement à Bagdad et notamment pour l'élection du nouveau Premier ministre. Et on est toujours dans une situation très compliquée aussi pour la formation du nouveau gouvernement dans le Kurdistan irakien. Mais pour ce qui est de Bagdad, effectivement, on n'est pas passé loin de réavoir Nouri al-Maliki pour Premier ministre. Et ça avait été totalement un désastre pour l'Irak, puisque par son sectarisme, il avait permis notamment l'expansion de l'État islamique. Et puis voilà, lui avait été attribué en grande partie la défaite de l'Irak, de l'État irakien face à l'offensive de l'État islamique. Et puis, tout récemment, le nouveau gouvernement irakien s'est formé, notamment via Ali al-Zaidi, qui a été élu un petit peu sous pression et qui est vu comme un homme de compromis, qui plaît à la fois à Donald Trump, hein, qui lui a directement adressé ses félicitations, mais qui plaît aussi aux chiites d'Irak proches de l'Iran. Donc, il apparaît vraiment comme un homme de compromis qui permet à l'Irak de pouvoir balancer entre sa proximité ou du moins son envie de ne pas avoir de mauvaises relations avec les États-Unis, tout en restant proche de l'Iran et surtout de pouvoir entre guillemets se garder de leur côté les milices chiites irakiennes qui sont officiellement intégrées au gouvernement mais qui sont trop autonomes, notamment pour les milices des forces de mobilisation populaire, mais aussi celle de la résistance islamique en Irak. Et justement, cet homme, qui est un directeur de banque, vu comme un homme d'affaires, pas trop sectaire, comparé à ce qu'on a pu voir avec Al-Maliki, semble être bien parti, en tout cas, pour poursuivre le bon travail de ce que j'ai pu entendre ici, qui avait été entamé par Al-Soudani. Du moins, c'était mieux déjà que Al-Maliki, de ce que je peux entendre ici. Mais voilà, effectivement, Ali al-Zaidi a lancé, il y a quelques jours, une offensive, anti-corruption, une opération appelée Assaut de l'Aube contre les principales baleines de la corruption. Un fléau complètement endémique depuis des décennies qui détruit l'Irak de l'intérieur. Et c'est au cours d'une nuit assez extraordinaire qu'au moins 47 personnes, dont plusieurs députés et des responsables, notamment au sein du ministère du Pétrole, ont été arrêtées à Bagdad et dans d'autres régions du pays. Donc ça a été totalement un énorme coup de filet, en fait, impulsé par le nouveau Premier ministre Al-Zaïdi, qui s'est en fait totalement donné pour mission de réduire l'influence de ces puissances chiites, notamment les milices chiites proches de l'Iran, notamment dans ce contexte très délicat de cesser le feu et de pourparler pour un accord de paix, mais qui reste très, très incertain et très compliqué. Et on le voit notamment ici dans le Kurdistan irakien, où malgré tout, on a eu des drones hein, encore récemment autour de Sulmaniyé ou vers Koya à l'est d'Erbil ou encore au nord d'Erbil. Mais voilà, Ali Al-Zaïdi, il est vraiment apparu comme un homme de compromis sous pression américaine, puisque les États-Unis avaient totalement posé leur veto en fait pour l'élection d'Al-Maliki. Et cet homme, voilà, permet en tout cas pour le moment de donner espoir en fait à l'État irakien de vraiment contrôler enfin d'avoir le pouvoir totalement et de contrôler le gouvernement, puisque c'est l'un des problèmes majoritaires pour l'Irak, c'est en fait la division du pouvoir entre ce qui est censé être le pouvoir central, divisé avec ces milices chiites qui elles-mêmes parfois ne s'entendent pas entre elles, puisque certaines d'entre elles sont proches entre guillemets du gouvernement, d'autres répondent totalement à l'Iran et ne considèrent pas du tout l'autorité de Bagdad. Et on l'a vu notamment pendant la guerre où le chef des armées Al-Soudani, juste avant l'élection d'Al-Zaïdi, dénonçait à la fois les attaques américaines contre les bases des forces de mobilisation populaire, mais dénonçait également les attaques de ces milices chiites sur les bases américaines, à la fois à Bagdad, notamment la base Victoria, mais aussi, évidemment, on l'a expliqué à maintes reprises, dans le Kurdistan irakien. Et notamment, ce nouveau Premier ministre, voilà, pour continuer sur son travail actuellement, qui redonne espoir pour avoir un État irakien souverain, a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Voilà, c'est un problème qui mine le pays dans son ambitieux programme. Et l'Irak, notamment, est considéré comme l'un des pays où la corruption gangrène les institutions publiques. Donc c'est vraiment très compliqué pour l'Irak de ce point de vue, et notamment désire également désarmer les milices. Donc voilà, c'est tout un ensemble de mesures et d'actions pour le moment qui semblent porter leurs fruits, ou du moins qui donnent espoir à l'État irakien de pouvoir reprendre la main sur le pays et sur la souveraineté de l'Irak. On l'espère, en tout cas, pour ces populations, n'importe lesquelles, évidemment, de voir l'Irak vraiment souverain dans son pays, plutôt que répondre aux ordres des Américains ou des milices chiites iraniennes.
Alors, ouais, l'Irak, parce que je pense que c'est important, les gens ont du mal à je pense, à se faire une idée. Alors moi-même, il y a 12 ans, quand je suis arrivé chez SOS Chrétien d'Orient, quand j'ai pris la décision comme ça, à l'époque, Alix de Franqueville vous a décrit un processus très organisé que nous avons aujourd'hui chez SOS Chrétien d'Orient qui nous permet de prendre les meilleures décisions. À l'époque, j'ai eu un appel de Charles de Meyer tard dans la nuit lié à l'urgence que subissaient les populations chrétiennes d'Orient, et j'ai dû me décider en quelques heures pour pouvoir partir en Irak le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui les choses ont bien changé, mais déjà à l'époque j'avais une certaine évidemment appréhension de ce que j'allais y trouver, de l'endroit dans lequel j'allais m'y retrouver. Et quand Alix de Franqueville, qui travaille avec nous depuis un certain temps déjà, m'a fait part de sa volonté et de la nécessité hein, du pôle volontaire de visiter l'Irak, voilà, je ne trahis pas de secret, Alix. Je pense que votre famille avait un peu d'appréhension, que vous-même, vous aviez quelques questions. Quelles sont vos premières impressions? Et je fais exprès, je la prends en traître. Quelles sont, en fait, vous qui êtes arrivés, bah, nous sommes arrivés tous les deux à l'aéroport il y a quelques heures. Hein, nous avons atterri à 17h à l'aéroport d'Erbil. Donc ça fait vraiment quelques heures que Alix découvre ce pays qu'est l'Irak. Et quelles sont vos premières impressions et de quelle manière ça casse un peu les préjugés que vous pouvez avoir sur ce pays?
Oui, effectivement, vous l'avez dit, c'est toujours compliqué de se représenter un pays avec une culture assez différente ou qui est teinté d'autant de préjugés, on va dire, avec la guerre, etc. On s'attend à arriver dans un pays peut-être un petit peu chaotique où voilà, ça va être radicalement différent de ce qu'on peut connaître en France, par exemple. Et en fait, très étonnamment, bah voilà, dès la sortie de l'avion, on arrive dans un aéroport où j'ai trouvé que finalement l'ambiance était presque familiale en fait quand on attendait pour passer par exemple la police aux frontières. Voilà, il y avait pas mal de familles, etc.
C'est sûr que si on compare à Roissy, c'est fort, ça ne peut être que mieux.
Mais voilà, donc très agréablement surprise. Au final, voilà, après de la route à l'aéroport jusqu'à l'appartement des volontaires, en fait, on se rend compte que le pays est mine de rien très développé. Il y a des infrastructures très modernes, voilà, les routes qui sont en bon état. Ça peut, voilà, aller un peu à l'encontre des préjugés, pardon, qu'on pouvait avoir auparavant. Donc voilà, très agréablement surprise et j'ai vraiment hâte justement de continuer ce séjour-là au Kurdistan pour m'en faire une meilleure idée.
Alors pour ça, Antonin, il me semble, nous a prévu un programme assez chargé. Donc, parce qu'il faut que vous sachiez, chers auditeurs, qu'en plus de fêter son anniversaire avec vous ce soir au micro pour partager son expérience en Irak, Antonin va enchaîner dans les jours qui suivent une grande tournée des projets avec Alix et moi-même afin de nous montrer les avancées, de montrer son travail en fait tout simplement, parce que qu'est-ce qu'il fait Antonin au quotidien? Non, mais de nous montrer les avancées de son travail tout simplement. Et donc voilà. Et c'est vrai que l'Irak, moi j'invite tous les potentiels futurs volontaires qui nous écoutent, ou les parents, grands-parents qui ont dans leur famille des gens qui sont un peu, qui ont besoin de vivre quelque chose de fort. Eh bien, je vous invite à nous rejoindre. Alors pas forcément en Irak, mais pourquoi pas? Parce que il faut casser les préjugés justement, et SOS participe à ça, à casser les préjugés qu'on peut avoir sur ces pays dans lesquels on travaille. Benjamin Blanchard lui-même était en Syrie ces derniers jours. Il a pu y rencontrer les chers amis qui s'est fait depuis 2013. Nous-mêmes en Irak, voilà, pour tout vous dire, on a regardé. Pour vraiment essayer de totalement casser les mythes qui existent autour de ce pays. On a regardé le match de la Coupe du Monde Argentine-Égypte avec des populations qui sont en Irak. Vous savez, les gens sont très très fans de Messi. Et donc, on avait une ferveur populaire gigantesque face aux 3 buts qu'a marqué l'Argentine, notamment avec Messi. Voilà. On n'est pas dans des bombardements quotidiens, on n'est pas dans une terreur qui règne dans les rues. On est entouré de gens qui sont adorables, qui ont un cœur énorme, qui ont les bras grands ouverts et qui demandent qu'à vivre en paix. Et c'est le travail que fournit SOS Chrétien d'Orient au quotidien. Alors, je dirais, Yvan de Mercey, il nous reste une dizaine de minutes. Qu'est-ce que ça vous a apporté, tout ça, ces années de volontariat en Syrie, de mission en Jordanie? Comment est-ce que vous voyez cet engagement chez SOS Chrétien d'Orient en règle générale?
Oui, c'est une vaste question. Ça m'a apporté beaucoup plus que ce que j'ai pu donner, hein. C'est la fameuse phrase qu'on dit tous quand on revient de son expérience en tant que volontaire. D'abord, en tant que volontaire, j'ai pu découvrir un pays meurtri par la guerre, ce qui n'est pas le lieu de réjouissance, mais plutôt un moyen de voir qu'on a beaucoup reçu et qu'on a beaucoup de chance d'être né et d'avoir reçu une éducation en France. Et quand on voit un pays détruit par la guerre, détruit économiquement, étouffé par les sanctions, où il n'y a aucune opportunité pour la jeunesse, de quelque religion qu'elle soit, quand on voit ces pays et qu'on voit encore des gens qui arrivent à avoir le sourire, sont heureux de nous voir, sont heureux de nous partager des moments de vie. Ça ne peut que nous faire relativiser, que nous donner baume au cœur et nous donner espoir, nous, dans notre vie de chrétien, notre vie de français. C'est une autre façon de découvrir la foi aussi. On part à la rencontre de populations qui ont été baptisées et converties avant nous, un millénaire, enfin plusieurs siècles avant nous, en tout cas avant l'Europe, et qui ont été les témoins d'événements bibliques. Quand j'étais en Syrie, j'ai pu visiter Damas, qui est chargé de lieux saints, notamment le lieu du baptême de Saint Paul, par exemple, ou le lieu de sa fuite quand il fuyait les persécutions des Juifs et des Romains pour aller prêcher plus dans le nord du Moyen-Orient et en Grèce. Voilà, cette expérience de volontaire m'a beaucoup apporté. Et en tant que chef de mission en Jordanie, œuvrer concrètement à instaurer, à gérer, à mettre en place des projets de rénovation d'églises, d'écoles, de financement d'infrastructures, de financement de frais de scolarité, de donations, de coupons ou de boîtes alimentaires. Tout ça n'est qu'une petite partie des différents projets que j'ai pu réaliser avec ma responsable projet, mon équipe, ainsi que l'accueil de volontaires pour les missions temporaires. Tout ça, en fait, m'a beaucoup apporté dans la vie de tous les jours. En fait, c'est un métier qui est une mission à part entière. On parle de mission et pas de carrière, parce qu'on est vraiment investi de grandes responsabilités, c'est-à-dire d'aider nos frères chrétiens. Évidemment, nous ne sommes pas les sauveurs de l'humanité, nous ne sommes pas des super-héros, on aide à la mesure de ce qu'on peut faire. Voilà, c'est une belle tâche, une belle rencontre avec des peuples très intéressants, très accueillants, une situation très instructive, et une histoire, une culture extrêmement riche que j'ai pu découvrir. Je suis très reconnaissant vis-à-vis des SOS Chrétiens d'Orient de m'avoir embauché en tant que volontaire et salarié.
Bah écoutez, c'est un très très beau mot de conclusion pour la Jordanie. Il nous reste 2 minutes, il me semble. Je reste 1 minute, Antonin, parce que justement, on parlait tout à l'heure des piliers des SOS Chrétiens d'Orient et la convivialité, le vivre ensemble, comme on dirait aujourd'hui en France, et le fait d'être chrétien ensemble, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a très peu de temps, il y a ce fameux pèlerinage de Chartres que beaucoup de nos auditeurs suivent, qui prient pour, voire participent à. Et en fait, quelque chose qu'on sait peu, c'est qu'on l'a mis en place dans nos missions également, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Ange Gardien. Et la mission Irak, il me semble, est un peu le porte-étendard chez SOS Chrétien d'Orient de ce pèlerinage de Chartres, puisque dans plusieurs missions, on le met en place également. Et pendant que les pèlerins français marchent en direction de Chartres, dans les missions, on marche également en communion de prière avec les chrétiens français.
Exactement, c'est la 5e année de suite que SOS Chrétien d'Orient organise le pèlerinage de Pentecôte à Alcoche, village chrétien dont je parlais précédemment, et ça a été une énorme réussite cette année encore, puisqu'on a eu 900 pèlerins qui se sont réunis à Alcoche et qui ont marché pendant quelques kilomètres, pardon, pas les 100 kilomètres évidemment de nos pèlerins courageux de Chartres, mais voilà, tout l'intérêt était d'être en union de prière avec les pèlerins de Chartres également, de pouvoir rassembler tous ces chrétiens d'Irak, du nord de l'Irak et de la plaine de Ninive.
Très bien, merci beaucoup. Merci à tous pour cette émission ce soir qui était passionnante. Merci à Alix, merci à Antonin et merci à Yvan. Je vous rappelle que c'était le Libre Journal de l'Occident et je vous invite à écouter nos prochaines émissions, à nous écouter en rediffusion, à partager autour de vous et à inviter vos proches à soutenir SOS Chrétien d'Orient, que ce soit par le recrutement de volontaires, par un soutien financier également et surtout par vos prières. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de l'Occident dirigé par François-Xavier Jiquel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 7 juillet 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€, ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.